Écrit ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Françoise Latour.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Françoise Latour pour son premier roman, intitulé Moleskine, et paru en 2022 aux éditions Vérone. Merci Françoise Latour d'être avec nous. Alors à Écrit d'ici, on est toujours curieux et intéressé de savoir la place qu'occupe l'écriture dans la vie de nos auteurs, d'autant plus quand ce n'est pas leur activité principale. Donc je vais vous poser la question. L'écriture pour vous, hobby, passion, obligation, appel, ça représente quoi ?
Alors en fait, l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui a été important pour moi. Quand j'étais jeune, j'ai dû commencer une dizaine de romans. Bien entendu, comme beaucoup de gens, je m'y prenais très mal. Je partais dans tous les sens. Mais quand même, il y avait cette envie. Et c'est vrai que vers 15-16 ans, je me suis dit, un jour, j'écrirai un roman. Comme il y en a qui disent, s'ils n'ont pas de Rolex, ils auront raté leur vie. Ben moi, je me disais, si je n'écris pas de roman, j'aurais raté ma vie. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un atelier d'écriture sur l'activité roman, donc, qui m'a permis d'acquérir des techniques et en fait de mener ce premier roman à son terme. Et puis, ça a été quand même pour moi une révélation, cette expérience d'écriture. Et je dois dire que depuis, c'est vraiment devenu une passion. Alors, c'est au point que le matin, je me réveille très tôt. Et c'est l'envie d'écrire qui me pousse à me lever. Même si je suis très fatiguée, si j'ai très peu dormi, c'est l'envie d'écrire, d'envie de me mettre derrière mon clavier. Vraiment.
Merci beaucoup, c'est assez complet.
Bien, alors, dans son roman Moleskine, Françoise Latour nous plonge dans la vie intime de Marie. Au moment où elle réussit enfin à aller au bout de sa demande de divorce, son mari Philippe meurt dans un accident de voiture. Cet homme tyrannique, possessif, l'a humiliée, insultée, harcelée pendant des années. Nous suivons le lent chemin de Marie vers sa reconstruction.
Mais merde, Philippe, qu'est-ce que tu fous ? Elle n'en finit plus de guetter des pas ou un bruit de clé, sans même être sûre d'être prête à faire face à Philippe lorsqu'il arrivera. En même temps, qu'est-ce que ça veut dire être prête ? Est-on jamais prêt avant de grimper sur un ring ou de monter en scène ? Le téléphone se fait soudain entendre. « Madame Després ? C'est moi, oui. Madame, je suis le brigadier Vergneux Gendarmerie de Varade. Madame, vous êtes bien l'épouse de Monsieur Philippe Després ? Il est arrivé quelque chose ? Oui, madame. » Il a eu un accident de la route. Il est malheureusement... Il est mort ? Oui, madame. Je suis désolé, votre mari, il est décédé. Philippe est décédé ? La phrase est étrange. Marie la tourne et la retourne. L'homme qu'elle a quitté est mort. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne l'a pas quitté ? Quel sens donner à la lettre à l'avocat postée aujourd'hui ? Une farce ? A-t-elle seulement existé cette enveloppe blanche qui pesait si lourd dans sa main ? Le chemin a été long jusqu'à cette boîte aux lettres. Il lui a pris 25 ans. Madame, madame, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, il faudrait que vous alliez reconnaître le corps. Je suis désolé, c'est toujours comme ça lors du décès d'un proche. Reconnaître le corps ? Oui, bien sûr. il faut aller reconnaître le corps de Philippe. Son corps, ça fait des années qu'elle ne le voit plus, qu'elle n'en veut plus. Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître d'ailleurs ? Reconnaître le corps, ça n'existe pas. C'est toujours le visage qu'on montre. Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître ? Elle ne sait plus rien de cet homme. Elle croyait même l'avoir quitté. Mais il l'a bien eu. Parce que c'est lui qui l'a quitté au bout du compte. Il est parti sûrement dans un grand fracas de tôle et il se marre depuis là où il est en contemplant sa pauvre mine.
Alors, on sait l'histoire en faisant concorder deux événements majeurs, on va dire. La demande de divorce de Marie, hein, qui, comme on vient de l'entendre, a pris 25 ans. Et puis, le décès de Philippe. Donc, voilà. Et la question, c'était quelle était votre intention parce que ce n'est pas banal comme point de départ. Voilà.
Eh ben, mon intention, c'était en fait de montrer comment on peut être déstabilisé quand quelque chose qu'on a tellement désiré, finalement, arrive, mais sans qu'on ait rien fait pour que ça arrive. Et le sentiment de dépossession qui s'ensuit, en fait. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est parfois compliqué dans la vie de prendre des décisions. Et quelquefois, c'est la vie qui se charge de décider pour nous. Et là, je pense que généralement, on ne se sent pas très bien parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. Et c'est ça qui m'intéressait, explorer cette culpabilité qu'il y a autour de tout ça, justement.
D'accord. Merci beaucoup. Une autre dimension est omniprésente dans ce livre, en tout cas pour nous lecteurs, pour moi lectrice. C'est ce que moi j'appelle le phénomène d'emprise, hein, qui est quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui. Alors, énormément. Oui, ça a été beaucoup plus... On a fait beaucoup plus de publicité sur cette question de l'emprise. Donc, elle est très très bien décrite. En revanche, à aucun moment vous nommez, il me semble, là, ce phénomène. Là encore, on avait un peu envie de vous entendre justement sur ce travail autour de l'emprise et votre intention autour de ces questions-là.
Ben oui, parce que l'emprise, je pense, alors je l'ai pas nommé parce que je crois que c'est quelque chose qui est tellement insidieux. Et on m'a fait la remarque suite à ce roman. On m'a dit, mais en fait, t'es pas allé très loin dans ce qu'il lui fait subir, etc. Mais je crois que ce que les gens ne savent pas, c'est à quel point, même quand l'emprise est là, même des événements, des attitudes qui sont en soi minimes vues de l'extérieur, vont être lourdes de sens et vont être destructrices. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée. Je ne voulais pas aller dans l'excès, je ne voulais pas aller dans quelqu'un qui va frapper, qui va hurler. Je voulais aller justement dans ce côté très pervers des petites choses qui, au quotidien, vont user la personne, vont la miner et vont la détruire, en fait, quoi. C'est ça que j'ai voulu explorer, vraiment.
C'est de la manipulation, quoi.
De la manipulation, voilà. Et c'est toujours très subtil, la manipulation. C'est jamais quelque chose qui est très visible. Et c'est vrai que, vu de l'extérieur, les manipulateurs sont souvent des gens... pas toujours charmant, mais enfin normaux, quoi. Pas du tout. Ça ne transparaît pas du tout dans leur comportement social.
Au contraire, d'ailleurs, hein, puisqu'à un moment donné, dans votre livre, au niveau de l'établissement scolaire dans lequel Marie travaille, hein, collègues disent, mais qu'est-ce qu'elle a à se plaindre, en fait, hein, elle a toujours quelque chose. Elle a un type charmant.
C'est ça.
Donc effectivement, on a vraiment quelque chose d'assez caractéristique. Comme profil, on va dire. Hein.
Oui.
Donc,
De double personnalité, en fait. Mmh.
Tout à fait. C'est ça. C'est le principe même du manipulateur qui pousse cette perversion jusqu'à effectivement isoler la victime parce qu'il y a qu'elle qui le perçoit comme ça.
Tout à fait.
C'est ça. Là.
Et pourtant, dans le roman, ce qu'on se disait, c'est que l'auteur que vous êtes n'a pas eu une écriture avec de la compassion. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Marie n'est excusée.
Tout à fait, parce que je pense que quelque part, enfin, je veux pas dire que les victimes sont toujours un peu consentantes. C'est pas ce que je veux dire, mais je pense que elle a quand même peut-être pas des torts, mais malgré tout, elle est restée alors qu'elle a eu beaucoup d'occasions de partir. On l'a vu, elle a eu un amant, elle a eu des tas d'ouvertures vers l'extérieur, Et c'est vrai qu'elle n'a pas saisi ces chances-là. Alors, c'est vrai que je n'ai pas un œil très, très compatissant vis-à-vis d'elle. Et puis, je n'ai pas voulu tomber non plus dans ce côté la pauvre Marie, la pauvre Marie, le méchant Philippe. Je ne voulais pas de ce côté un petit peu manichéen, là. Ça ne m'intéressait pas. Donc, pour moi, Marie, c'est une femme. Et puis, avec ses forces, ses faiblesses, je n'ai pas voulu la décrire comme une victime non plus.
Merci beaucoup.
Très bien. Alors, André, pour un deuxième extrait.
Ils se font face de part et d'autre de la table inutilement grande où Marie mange souvent seule désormais. Elle contemple Julien. T'as quoi à me dévisager comme ça ? Je ne peux même pas te regarder. C'est pire que ce que je croyais. Et tu croyais quoi ? Qu'on allait se faire plein de mamour en regardant des vieilles photos ? Ils ont terminé leur repas, alors elle se lève, entreprend de ranger la cuisine, n'espère déjà plus rien de ce face-à-face. Il ne fallait pas venir, Julien. Il ne fallait pas venir, Julien, c'est toi tout ça. Tu me fais débarquer ici, et maintenant tu te lèves, tu fuis. T'as peur d'en prendre plein la gueule ? T'as l'habitude pourtant, non ? Quand l'autre con te mettait plus bas que terre, comme si t'étais rien de plus que son punching ball. Et toi, tu te justifiais, on te déversait des seaux de merde sur la tête, et toi, tu parlementais, t'expliquais. T'avais besoin de te sentir légitime aux yeux de ce connard. Mais ma pauvre, il entre avec dalle à ce que tu lui racontais. Il n'écoutait même pas. Par contre, comment ça le faisait bander quand tu te rabaissais comme ça, que tu sois là presque en train de t'excuser d'exister. Je le sais, moi. Je l'observais pendant vos petites scènes. T'aurais pu faire n'importe quoi. Ça aurait jamais été bien. Tu serais devenue transparente. Il t'aurait reproché d'être transparente. Il n'aurait pas pu t'exhiber comme son beau trophée. Il fallait que tu brilles et que tu sois terne, les deux à la fois. Et toi, tu croyais que t'allais y arriver. Tu faisais tout pour y arriver. En fait, toi, t'as besoin de ramper. C'est ton truc à toi. La seule fois où t'étais vraiment digne, c'est quand tu me défendais. Ah là, chapeau. Pour me défendre, t'aurais levé des armées, une vraie tigresse. Et je crois même qu'il avait peur quand t'étais comme ça, quand tu sortais toute ta force et que tu la lui balançais dans la gueule. T'aurais même pu le tuer, je crois. T'aurais dû. Mais au fait, t'as du bol, tu vois. Même pas eu besoin. Tu as sa mort sur un plateau.
Alors, c'est le moment de la pause musicale. Donc, Françoise Latour a choisi la Gnossienne numéro 5 d'Éric Satie. Thank you. êtes bien sur Jet FM 91.2. Nous sommes en compagnie de Françoise Latour pour son roman Moleskine. Alors, juste avant la pause musicale, André a lu un passage entre Marie et son fils Julien, dans lequel Julien est assez violent, je ne sais pas, mais enfin en tout cas très virulent, et il reproche à sa mère sa faiblesse, sa lâcheté. Et en fait, la question, ça tournerait un petit peu autour de ces couples. Alors, par exemple, donc celui-ci, qui finalement, parfois, les enfants sont une espèce de prétexte pour rester ensemble, puisque voilà, faut pas déstabiliser l'enfant. Et là, on a une réaction qui est un peu inhabituelle, quoi. Et voilà, en fait, ça portait là-dessus, en fait.
Oui, parce qu'en fait, Julien qui, même si ça ne se voit pas, il vénère sa mère, il l'adore, il est très conscient de la valeur de cette femme. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il a souffert de la voir malheureuse. Il n'arrive pas à exprimer les choses autrement qu'en étant violent. Et je pense que lui, c'est aussi sa propre faiblesse qu'il a vue chez sa mère, parce qu'on le découvre par la suite dans le roman. C'est quelqu'un qui a aussi d'énormes difficultés relationnelles dans son propre couple. Et là, c'est tellement plus facile de déverser toute sa rage sur sa mère, finalement, plutôt que de se regarder en face et de voir aussi de trouver aussi ses propres failles. C'est un petit peu ça le sens de cette relation compliquée qu'il a avec sa mère.
Oui, mais le fait d'avoir été éduqué, enfin élevé, grandi, d'avoir grandi dans cette atmosphère, comme on l'a dit tout à l'heure, perverse, manipulatrice, c'est pas très étonnant non plus qu'il soit pas.
Et il a développé une véritable haine vis-à-vis de son père, parce que c'est vrai que on le découvre par la suite, il a des carrément un désir de parricide, et c'est pour ça qu'il manifeste cette agressivité vis-à-vis de sa mère, parce qu'elle lui a imposé jusqu'à ses 18 ans de vivre avec ce tyran qui n'était pas violent avec Julien, parce qu'il n'osait pas s'attaquer à son fils, mais qui était extrêmement violent avec la maman, enfin pas physiquement, mais quand même. Et le fils qui a assisté à tout ça, effectivement, en a beaucoup souffert.
Alors, donc nous avons vu dans ce livre, effectivement, donc Philippe, Marie, Julien, et puis peut-être un quatrième personnage, l'écriture. Hein, quand, en filigrane, c'est-à-dire... elle est là, mais elle n'est plus possible. Et puis, tout d'un coup, elle revient. Et puis, quand Julien prend plus de place dans le roman, on s'aperçoit aussi que, d'abord, il est pigiste, on va dire. Donc, il écrit, un écrit journalistique. Et puis, petit à petit, on va découvrir que, finalement, il écrit, tout court. Et donc, la question, c'était un peu... et ça servit de fil pour relier mère et fils, en fait. Hein, et donc, on fait un pont avec l'auteur. En plus, avec les réponses que vous avez faites au début, c'est parfait. Et donc, c'était un peu cette question. Est-ce que la vertu de relier est prêtée à l'écriture en tant que telle, ou alors est-ce que la vertu est prêtée au fait d'avoir une passion commune pour relier? Mais nous, on avait plutôt l'impression que c'était quand même la place de l'écriture qui était particulière.
Oui, l'écriture, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui a d'énormes vertus. Et effectivement, le pouvoir reliant des mots, c'est pour moi quelque chose de très important. Je crois que les mots ont une énorme force pour rassembler, pour faire converger. Mais même les mots ont une énorme force, même s'ils ne sont pas partagés. Il y a un pouvoir extrêmement libérateur des mots. Et d'ailleurs, Marie réussissait à continuer à vivre parce qu'elle tenait un journal auquel elle se confiait. Et Julien, le premier roman qu'il écrit, c'est sur l'histoire justement familiale, puisqu'il parle de, enfin on le comprend dans le roman, il parle de ce fameux parricide qu'il n'a pas réussi à réaliser dans la vie. Donc on voit bien que les mots sont un moyen de vivre peut-être ce qui n'a pas pu être vécu, ou de supporter ce qui est difficile à vivre. Mais enfin, je suis intimement convaincue de cet énorme pouvoir qu'ont les mots, bien sûr.
Merci beaucoup.
Eh bien, justement, à propos de mots, André va nous lire un dernier extrait.
Marie reprend là où elle s'était interrompue. J'ai une nouvelle voisine dans l'immeuble. Elle enseigne la danse et elle m'a un peu prise sous son aile. Depuis que je bouge mon corps, quelque chose s'est aussi débloqué dans ma tête. En fait, ça marche ensemble. Je me rends compte que j'ai parfois envie d'écrire, comme autrefois. J'ai ressorti tous mes carnets bleus de la Moleskine, bon sang. C'était un tel luxe pour moi à l'époque. Le seul sûrement, mais je devais bien cet écrin-là à mes mots parce qu'il y en avait tellement. Là, je crois que c'est en train de revenir, ces torrents. Il va falloir que je rachète des carnets. Ce sera la saison 2, très longtemps après la première. J'ai arrêté d'écrire quand j'ai rencontré ton père. Au début, c'était parce que je n'avais plus besoin d'écrire, je crois. Dans les premiers mois de ma relation avec lui, j'ai été comme ébloui. Plus besoin d'écrire, plus besoin de faire du théâtre, de voir mes amis. Après, quand l'éblouissement est devenu juste un souvenir, je n'ai pas retrouvé le chemin des mots. Pendant quelques mois, j'ai essayé. Je me souviens que j'avais relu un peu mes carnets chez Clara. Je les avais planqués là-bas tellement j'avais peur qu'il les retrouve. Ça m'avait redonné envie. Alors, je noircissais des feuilles volantes en me disant que je les recopierais un jour dans un carnet. J'écrivais sur toi, beaucoup. Et quand je n'écrivais pas sur toi, je te parlais. Je n'avais que toi. Tu étais là à toutes les lignes, presque à chaque mot. Gaëlle m'a dit pour toi que tu écris. Je ne pense pas qu'elle ait dévoilé un secret. L'écriture est une chose à propos de laquelle j'aurais aimé que nous échangions, toi et moi. Ce ne serait peut-être pas approprié. Je doute que tu aies envie d'aller sur ce terrain-là avec moi. Quoi qu'il en soit, je serais heureuse si tu as cette maladie-là, toi aussi. Elle est douloureuse et incurable, je crois. Mais bon, à mon avis, tu le sais déjà.
En entendant la lecture d'André, il me vient une remarque à propos du début de l'extrait, justement, de cette façon de faire, je pense qu'ont beaucoup de femmes finalement, quand il y a une rencontre un peu passionnelle, quoi, de tout laisser tomber ce qu'il y a à côté. Oui. Et oui. De s'enfermer en fin de compte.
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un éblouissement. Et on a tellement, je crois, l'impression que cet éblouissement-là, on va le porter toujours, il va être toujours là, qu'on se dit, le reste, c'est plus important. Je laisse tout. J'ai trouvé ce que je cherchais, en fait. Et c'est complètement illusoire, bien sûr, parce que je crois que personne ne peut trouver ce qui va le combler à 100% et toute la vie. Mais ça, je crois que c'est tous les gens qui ont eu un coup de foudre ont ce comportement qui est, à mon avis, hyper dangereux. Parce que, au contraire, pour continuer à nourrir une relation, il faut garder tout ce qu'on a à côté, les amis, les passions, etc. Mais ça, on ne le sait pas et personne ne nous le dit. Et puis même si quelqu'un nous le disait, on le croirait surtout pas, parce qu'on n'en aurait pas envie.
N'est-ce pas ça qu'on appelle la passion amoureuse ?
Si, bien sûr.
Qui a été décrite par des auteurs, d'ailleurs, comme pouvant être avec un pouvoir destructeur.
C'est ça, parce que la passion amoureuse, je pense que c'est pas forcément l'amour. Elle peut se transformer en amour, mais au départ, c'est pas... Je pense que c'est une relation, un peu une relation de miroir. Parce qu'on aime l'image que l'autre nous renvoie de nous-mêmes, parce qu'il est amoureux aussi. Et on se perd dans quelque chose qui est complètement... c'est une espèce de fusion et qui est, à mon avis, dangereuse. Parce qu'on peut ne pas en revenir.
Alors, peut-être donc... en écho effectivement à ce que l'extrait que vient de lire André, hein, ça relie un peu la question de tout à l'heure sur le pouvoir des mots. Hein, Marie, elle explique comment ça l'a fait vivre, comment ce lien avec cet enfant la fait vivre, comment elle dit à la fois c'est une douleur et en même temps une maladie, mais quelque chose que j'aimerais bien transmettre finalement. Hein, on est aussi sur la question de la transmission entre cette mère et ce fils. Donc nous, on a fait une lecture bien évidemment partiale, hein, puisqu'on a repéré des choses. Et peut-être dans ce roman, c'est aussi l'occasion pour vous peut-être de développer un point, peut-être qui a été un point aveugle pour nous, ou sur lequel vous avez envie de vous d'en dire plus.
Pour finir, parce que nous,
voilà. Je pense que oui. Ce qui est important pour moi, c'est cet amour filial extraordinaire, ce côté louve de cette femme, et bien que la relation soit très compliquée, elle est toujours totalement investie. Et il y a un moment de sa vie, c'est vrai, quand elle est vraiment tout en bas, mais qu'elle commence à remonter. On sent qu'il y a cette douleur que son fils ne soit pas plus présent auprès d'elle, parce que c'est vraiment la seule chose qui compte à partir d'un certain moment. Donc oui, c'est aussi un roman de l'amour filial qui, enfin, j'ai voulu aussi développer ce thème-là.
D'accord. Une actualité, Françoise Latour, pour vous, en termes d'écriture ?
Oui, je suis dans mon deuxième, je suis rendue à la page 200. Donc, je me lève toujours très tôt le matin pour écrire. Il y a des moments où c'est très difficile, mais je m'y accroche et je compte bien essayer de le faire publier également.
D'accord. Donc, on aura peut-être l'occasion de vous retrouver
prochainement
pour votre deuxième roman. Merci beaucoup, Françoise Latour.
Merci à
Merci
vous.
D'être venue. Alors, pour terminer, je vous signale le printemps du livre à Montaigu, les 24, 25, 26 mars. Et l'édition 2023 du Printemps des Poètes, du 11 au 27 mars. Pour finir en musique, Françoise Latour a choisi Chacona di Paradiso e dell'Inferno de Philippe Jaroussky.
Nell'inferno, dove si vive in pianto e poco eterno, senza veder mai Dio in sempiterno. Ai, ai, corribili star giù nell'inferno, ai, ai, corribili star giù nell'inferno. Che stupore, le brine, le tempeste, il sommardore, stanno in un luogo tutte le intemperie, si raduna laggiù, oh che miserie, si raduna laggiù, oh che miserie. E pieno d'ogni male tu sarai, disperato d'uscirne mai, disperato d'uscirne mai.